bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Il est 17h sur Radio Orient, le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, l'escalade au Moyen-Orient de plus en plus inquiétante aux frappes américaines contre ses installations militaires. L'Iran répond en attaquant ses voisins proches des États-Unis. Nous ferons le point en début de journal. Washington et Riyad ont conclu un accord ouvrant la voie au développement d'un programme nucléaire civil en Arabie Saoudite. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée à une normalisation des relations entre le Royaume et Israël. Le Forum de l'Islam de France lance une consultation nationale des responsables du culte musulman. Objectif, construire une future instance représentative de l'Islam de France. Bonjour, les frappes se poursuivent au Moyen-Orient. L'armée iranienne jure de poursuivre ses attaques aussi longtemps que l'Iran sera attaqué. Donald Trump, lui, menace Téhéran et Houthi d'une punition militaire majeure. Aucun signe d'apaisement donc entre les deux pays, voire l'inverse. Un nouveau front semble s'ouvrir dans le conflit au Moyen-Orient et les réactions internationales commencent à tomber. Chez Clara Dubancher.
Oui, d'un côté, les États-Unis ponctuent jour et les nuits des Iraniens de frappes visant notamment la seule centrale nucléaire du pays ou des infrastructures près du détroit d'Ormuz. De son côté, l'Iran attaque ses voisins proches des États-Unis. Aujourd'hui encore, Téhéran revendique des frappes de drones au Koweït contre des sites militaires américains visant dépôts de munitions ou encore réservoirs de carburant. En Jordanie ensuite, les gardiens de la Révolution affirment aussi avoir détruit un système américain Patriot conçu pour intercepter les projectiles balistiques, alors qu'une fois encore à Bahreïn, sous la menace des bombes, les sirènes d'alerte ont retenti ce matin. Et depuis hier, en mer Rouge, les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué des attaques contre deux pétroliers saoudiens qui étendent les frontières du conflit.
Face à la dégradation de la situation, les réactions de la communauté internationale s'enchaînent, Clara.
Oui, l'Union européenne dénonce l'attaque des rebelles houthis du Yémen, considérée comme inacceptable. L'Europe appelle à cesser une escalade dangereuse. C'est aussi ce que souhaite l'Allemagne, qui se dit très inquiète de l'évolution de la situation. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, alerte même sur une situation hors de contrôle, au bord de l'inimaginable, selon ses termes. À Téhéran, où les bombardements américains se succèdent, Londres a retiré son personnel diplomatique qui restait dans le pays. Et enfin, à Oman, pays voisin du Yémen et médiateur clé, eh bien, on essaie d'œuvrer pour la reprise des pourparlers entre les rebelles et l'Arabie Saoudite.
Merci Clara pour ces précisions. Au beau milieu du conflit avec l'Iran, les États-Unis ont annoncé un accord avec l'Arabie Saoudite pour développer un programme nucléaire civil et permettre la construction de centrales dans le royaume. Une victoire majeure pour Riyad, rival régional de Téhéran en matière de technologie nucléaire. Une exigence cependant rappelée aujourd'hui par le président Donald Trump. La signature de l'accord dépendra surtout de la reconnaissance de l'État d'Israël par l'Arabie Saoudite, une condition que tente d'imposer Washington depuis plusieurs années. L'accord doit encore être soumis au vote du Congrès. L'extension du conflit à la mer Rouge fait s'envoler les prix du baril de pétrole Brent. Il a atteint aujourd'hui les 100 dollars, une première depuis le mois de mai. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, juge alarmante la situation géopolitique au regard de l'évolution du prix du pétrole d'heure en heure. À Gaza, la sécurité alimentaire et la nutrition infantile s'améliorent mais restent fragiles. Dans un nouveau rapport, l'ONU fait état d'une augmentation significative de l'aide alimentaire et nutritionnelle depuis le cessez-le-feu en octobre 2025, bien qu'un seul point de passage au sud soit ouvert, limitant l'acheminement de l'aide humanitaire. 890 millions d'euros d'amende, c'est le total de la sanction infligée par l'Union européenne à Google. L'entreprise américaine est accusée d'atteinte à la concurrence dans la recherche en ligne et sur son magasin Google Play. C'est le montant le plus élevé prononcé par Bruxelles contre une entreprise. Au Maghreb, les incendies continuent de toucher plusieurs pays dans un contexte de forte chaleur. En Algérie, les feux qui ravagent depuis une dizaine de jours, plusieurs régions du nord ont fait 6 morts. Dans la wilaya d'Annaba, particulièrement touchée, plus d'une centaine de personnes ont été évacuées et près de 150 habitations endommagées. Le ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Sayoud, s'est rendu sur place pour superviser les opérations de lutte contre les incendies. Au Maroc, près de 628 hectares ont été ravagés par d'importants incendies de forêt en une semaine. Et puis en Tunisie, 90 incendies ont été recensés entre le 11 et le 22 juillet. 77 ont été maîtrisés, 10 sont en phase de refroidissement et 3 restent actifs. Aucune perte humaine n'est à déplorer dans le pays. La France, elle, est également confrontée à une saison des incendies particulièrement précoce dans un contexte de forte chaleur. Le pays vient d'ailleurs d'enregistrer sa 3e vague de chaleur, la plus longue depuis le début des relevés météorologiques, avec 16 jours consécutifs entre le 4 et le 19 juillet. En Gironde, dans le sud-ouest de la France, le feu a parcouru plus de 3100 hectares avec des vents défavorables. Il n'est pas encore stabilisé, mais reste contenu par les pompiers dans le nord de l'Aige-Cap-Ferré. La menace des habitations a conduit à évacuer plus de 20 000 habitants et touristes. Alors que les incendies mobilisent d'importants moyens terrestres et aériens, Roland Lescure était ce matin l'invité de nos confrères de France Info. Il est revenu sur le dispositif mis en place pour faire face au feu. On écoute le ministre des Finances et de l'Économie.
On a mis beaucoup. Ces dernières années, c'est 850 millions d'euros de plus dédiés à la sécurité civile, notamment la commande d'hélicoptères, d'avions. On a encore commandé 2 Canadair nouveaux cette année. Je pense qu'on a, je le répète, engagé des mouvements historiques, des montants historiques, depuis 2023. La réalité, c'est que les Canadair et l'entreprise qui les produit était plutôt en sommeil, avait ralenti nettement la production et qu'il a fallu accélérer. Et que malheureusement, ces feux de forêt, ces feux en général, d'ailleurs, ils ne sont pas présents seulement en France. Il y a des méga incendies au Canada, il y en a d'autres ailleurs en Europe, et que la demande est très forte. Le sujet, ce n'est pas où on les produit. Ce ne sont pas des engins, je dirais, stratégiques liés à la sécurité nationale. Il faut surtout qu'on puisse investir dans les capacités de production, qu'elles soient ici ou... Aujourd'hui, ils sont produits au Canada. On n'a pas de problème de souveraineté avec nos amis canadiens avec lesquels on commerce de manière extrêmement efficace. Non, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut un arsenal global. La prévention, la lutte contre le réchauffement climatique, la prévention des incendies, la culture et l'éducation de nos concitoyens pour éviter les départs de feu, c'est quand même la meilleure manière d'éviter les incendies, c'est qu'ils ne partent pas. Et puis, s'assurer que les sapeurs-pompiers ont les moyens, ils l'ont, il faut continuer à investir, c'est sûr. Il faut aussi, c'est un point important, parce que beaucoup des sapeurs-pompiers sont volontaires, que les entreprises s'engagent à les libérer. Quand justement, un sapeur-pompier vous demande d'être libéré, en général, c'est pour une bonne raison. En tout entendu. Cas, nous l'avons relayé, il est très largement entendu. Il y a parfois, ici ou là, des entreprises qui rechignent un peu, mais globalement, c'est une cause nationale.
Roland Lescure, ministre des Finances et de l'Économie. Le gouvernement annonce le doublement du plafond annuel des franchises médicales qui passera de 100 à 200 euros. Selon la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, les montants prélevés sur les consultations et des médicaments resteront inchangés. Les femmes enceintes et des mineurs ne sont pas concernées par ces franchises. La principale fédération de patients France Asso Santé déplore une erreur monumentale. Qui pour représenter l'islam en France? Le Forum de l'Islam de France lance une consultation nationale des responsables du culte musulman avec pour objectif de construire une future instance représentative. Une démarche qui se veut différente des précédentes. Cette fois, il s'agit de partir du terrain, des mosquées, des structures locales pour définir les contours de cette nouvelle représentation nationale. Les explications de Najat Ben Ali, rectrice des mosquées Javel et Mariam, présidente de la coordination des associations musulmanes de Paris et membre du FORIF. On l'écoute.
Nous avons engagé une démarche nouvelle. Au lieu de créer une instance nationale puis de demander aux mosquées de les rejoindre, nous faisons l'inverse. Nous partons du terrain. Nous consultons les responsables de mosquées et les responsables d'ARL, c'est-à-dire la représentation locale, pour qu'ils participent avec nous à définir les missions, les services, la gouvernance de la future instance. L'objectif étant une représentation démocratique, indépendante et surtout utile et profondément ancrée dans les territoires, puisque depuis plusieurs années, les acteurs du culte musulman font remonter le besoin d'une représentation nationale renouvelée. Et donc le choix que nous avons fait est celui de la rupture de méthode, ne pas reproduire une construction par le haut, mais partir du terrain, des mosquées, des territoires et de ce que vivent au quotidien les responsables d'ARL pour pouvoir lancer notre consultation.
Cette instance, elle sera amenée à dialoguer, à être l'interlocutrice de l'État ?
Oui, tout à fait. Un de ses objectifs est d'être l'interlocuteur de l'État. Mais ce qui est extrêmement important, c'est aussi d'être utile sur le terrain, d'apporter des services. Parce que être un interlocuteur simplement de l'État, ce n'est pas une réponse en soi et ça ne donne pas une réelle légitimité. Il faut une instance représentative qui soit orientée service. Et c'est ce que je viens de dire, nous ne voulons pas construire une organisation qui parle au nom du culte musulman. Ce que nous voulons construire, c'est une organisation qui soit utile au culte musulman. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous interrogeons actuellement dans le cadre de la consultation sur les attentes prioritaires, notamment en matière d'accompagnement juridique, administratif, de gestion, sécurisation du lieu de culte, de formation, d'aumônerie, de carré confessionnel, d'accompagnement spécifique des structures locales, de médiation, de dialogue interreligieux, etc. Vraiment, l'objectif de l'instance, c'est de s'inscrire dans une dimension de service.
Najat Ben Ali, rectrice des mosquées Javel et Mariam, au micro de François-Xavier de Calonne. Pour finir, un mot de sport, une page se tourne. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, s'apprête à laisser la place à son successeur mardi prochain, même si le communiqué de la Fédération française de football ne cite pas le nom de Zinedine Zidane. C'est bien ce dernier qui est attendu dans la bouche du président de la FFF, co-champion du monde de 1998 avec Didier Deschamps. L'ancien joueur n'a jamais caché son ambition d'un jour guider les Bleus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à Raymond Jouan pour la réalisation. Je vous retrouve à 18h pour le point de l'actualité. Excellente suite de programme sur Radio Orient.